Le HESS est donc créé en 75, elle prend la suite de la 6e section de l'EPHE, et dès cette date, en fait, dès le départ, il y a une volonté à l'école, à la fois de conserver ces archives et de les traiter. Ce qui n'est pas du tout le cas de toutes les institutions académiques. Hein. Ça fait de l'école une institution assez originale de ce point de vue-là. Quand je dis les archives de l'école, c'est à la fois des archives administratives et des archives scientifiques. C'est les deux. Hein, les deux. Alors, l'école verse une partie de ses archives. Les archives administratives sont versées régulièrement, il y a des versements réguliers aux archives nationales, mais il y a un choix qui est fait très tôt de conserver les archives scientifiques. Quand on parle d'archives administratives, par exemple, ce sont les archives des services de l'école, des services centraux de l'école, mais aussi les services de la présidence, voilà, des choses comme ça. Quand on parle des archives scientifiques, ça regroupe en fait des choses assez diverses, les archives des centres, les archives aussi des chercheurs, et dans les archives des chercheurs, il y a des choses très diverses, très, très, très variées, des manuscrits, des notes, des cours, des séminaires. Donc toutes ces archives, ça représente une masse considérable. Et c'est surtout un trésor. Alors c'est un trésor pourquoi? Parce que c'est une documentation extrêmement variée et qui permet à la fois de faire l'histoire de l'institution qu'est le HESS, de travailler donc sur son histoire, mais aussi, plus largement, de retracer l'histoire des sciences humaines en France et de la recherche en sciences humaines et en sciences sociales en France dans quasiment les 50 dernières années. Ces dernières années à l'école, il y a eu un effort important, voire très important, qui a été fait en matière de politique archivistique pour essayer à la fois de rationaliser, de regrouper d'abord les différents fonds d'archives, ils étaient très dispersés. On a essayé de rationaliser tout ça et de concentrer tout ça, tous ces fonds, en un seul endroit. Et cet endroit, c'est ici, c'est donc l'entrepôt d'Aubervilliers. C'est un lieu de stockage des fonds, mais c'est surtout et aussi un lieu de traitement de ces fonds, parce qu'il ne suffit pas de les stocker, il faut évidemment traiter cette documentation. Et non seulement où les archivistes du service traitent les fonds, mais aussi où les lecteurs, qui avant se rendaient au 96, viennent désormais maintenant ici pour consulter ces fonds. Le lieu d'Aubervilliers n'a pas été choisi par hasard. On est juste à côté du campus Condorcet qui est en train de sortir de terre. Donc le campus Condorcet, c'est ce regroupement de 11 établissements universitaires. Et surtout, c'est le lieu où va être construit et va s'ouvrir dans peu de temps, en 2020, à la rentrée 2020, le GED, le grand équipement documentaire. C'est un lieu tout à fait unique en son genre, dans sa conception et dans le paysage académique français, puisque c'est un lieu qui est à la fois un centre de documentation, donc une bibliothèque universitaire, mais qui n'est pas seulement une bibliothèque universitaire, puisque en plus de cette bibliothèque universitaire et de ce centre de documentation, il y aura un centre d'archives avec un certain nombre d'établissements partenaires du campus Condorcet qui vont déposer là-bas leurs archives. Donc on aura là un instrument de recherche pour les chercheurs, pour les étudiants, tout à fait unique en France, voire même en Europe, dans les années qui viennent.
Alors là, vous êtes sur la mezzanine donc, de l'entrepôt, de la partie entrepôt donc, du bâtiment loué par l'École des hautes études en sciences sociales pour ses archives à Aubervilliers. Et donc vous êtes à l'endroit où se trouvent tous les cartons dont a parlé tout à l'heure Julien Blanc. Et ils sont rangés méthodiquement dans ce qu'on appelle les travées, et ils sont classés donc ici donc par fonds d'archives. Donc on a un certain nombre de fonds d'archives ici, principalement sur la mezzanine, c'est des fonds de chercheurs et de centres de recherche. Par exemple, là devant moi se trouvent toutes les archives du CADIS, le centre d'analyse et d'intervention sociologique fondé par Alain Touraine. On a le fonds de Pierre Vidal-Naquet juste ici, on a le fonds de Maurice Godelier un peu plus loin par là-bas, on a le fonds du président Marc Auger, qui était président mais aussi chercheur à l'école, un anthropologue. Voilà, on a beaucoup de fonds d'archives très variés, et donc là en ce moment il y a un travail qui est réalisé sur ces fonds pour faire ce qu'on appelle un récollement. Donc c'est une vue d'ensemble de toutes ces archives, et en parallèle de ce récollement, il y a un travail plus précis sur des fonds de classement, donc de ces fonds, qui consiste à décrire précisément le contenu de chacun des cartons, de ces milliers de cartons donc qui sont conservés ici par l'école en vue du campus Condorcet. Une grande partie de ces fonds sont déjà accessibles, et on a régulièrement des gens qui viennent les consulter. Donc là, c'est le fonds de Pierre Vidal-Naquet. Dans l'intérieur de ce dossier, on a une chose assez rare pour Pierre Vidal-Naquet, qui n'avait pas l'habitude de conserver ses manuscrits. On a le manuscrit donc, de ce livre. On a en tout cas plusieurs chapitres. Et on a de la correspondance. Donc, c'est souvent de la correspondance envoyée à la réception, à la réception de l'ouvrage. Donc de gens qui ont lu son livre et qui lui font un retour. Voilà, ça c'est vraiment des dossiers plutôt sympathiques avec aussi des coupures de presse. On a aussi un dossier vraiment là où on n'a que des coupures de presse et dans lequel on peut trouver quelques photos de Pierre Vidal-Naquet lors d'une conférence en lien avec la parution de son livre. Donc voilà, on a un certain nombre de dossiers de ce type dans les archives de l'EHESS, hein, que ce soit pour les historiens, mais pour aussi tous les autres types de chercheurs de toutes les disciplines. On a beaucoup de dossiers comme ça de publications, de livres, d'articles ou autres. Parmi les fonds d'archives collectés par le service des archives de l'École des études, en sciences sociales, on a bien sûr des fonds d'archives publics, qui sont les archives des centres de recherche. On a aussi des fonds privés, et notamment des fonds de chercheurs qui n'ont pas forcément été des enseignants-chercheurs de l'école, mais qui sont en lien avec l'école. Et tout à l'heure, Margot vous parlera du fonds René Basset, qui est un fonds d'un orientaliste, qui a été collecté par le service des archives en tant qu'archive privée, et donc en tant que don.
Moi, je suis en première année de thèse à l'Université Paris 8, et je travaille sur la vie intellectuelle et culturelle en Algérie coloniale. J'ai construit mon sujet de thèse à partir de ce fonds d'archives, qui est donc le fonds Basset, qui contient la correspondance et les archives personnelles, mais surtout la correspondance qui est très importante et très intéressante, du premier doyen de la faculté des lettres de l'Université d'Alger. Cette correspondance se retrouve à l'EHESS parce que c'est un don privé des descendants de René Basset, de son petit-fils, qui a donné les archives à l'EHESS via des professeurs qui connaissaient ce fameux descendant. Et en fait, le fonds a fait l'objet d'un séminaire, et fait toujours d'ailleurs l'objet d'un séminaire de recherche à l'EHESS depuis 3 ans. Au début, notamment avec le séminaire, en fait, il y a une partie des lettres, les années de 1903-1906, sur lesquelles on travaille avec le séminaire, qui ont été numérisées. Et donc là, il s'agissait collectivement de construire aussi l'inventaire avec un fichier Excel, hein, tout simplement, en répertoriant toutes les informations qu'on pouvait trouver sur les lettres. Donc en fait, je précise que le fonds est classé par année et par mois. Par mois, ça va de 50 lettres à 200, donc c'est assez long. Il y a, je crois, une cinquantaine de cartons, ça va de 1868 à 1926. Et donc, d'abord, j'ai eu cette approche où on voyait un petit peu... en tant qu'étudiant, quel était le travail d'archiviste, parce qu'on participait à classer le fonds. Et du coup, j'ai un peu repris ça au début de mon doctorat, en faisant par année, en continuant à faire un espèce d'inventaire, avec des critères qui varient et qui évoluent en fonction de mes recherches annexes. Et après, je vais aussi, donc je fais ça chronologiquement, c'est très long. Et après, sinon, je vais directement aux années qui m'intéressent en fonction des événements qui ont lieu à Alger. Et donc là, c'est beaucoup de lecture. Donc en fait, si on peut résumer, il y a une approche qui est assez quantitative parce que j'aimerais voilà, faire un peu des petites statistiques sur l'évolution de cette correspondance. Et une approche qui est plutôt qualitative, où je lis vraiment, dans le fond, les lettres qui m'intéressent. Moi, je m'intéresse plus à la correspondance professionnelle, mais c'est vrai que c'est mêlé avec la correspondance intime, et des fois, il y a des choses qui sont très intéressantes dans la correspondance intime aussi.